Alors, les lois contraires à la loi naturelle et l'objection de conscience. Le pouvoir législatif a pour mission de servir la dignité des personnes dans la poursuite du bien commun. Et l'Église rappelle que ce n'est pas le droit qui décide ce qui est juste, ou alors que ce n'est pas la volonté du législateur qui fait la loi, mais c'est le droit naturel, qui ne fonctionne pas comme un catalogue, donc en réponse à une question qu'on a entendue tout à l'heure, mais plutôt comme une source d'inspiration constante. Alors que dit la doctrine sociale de l'Église au sujet de ces lois contraires au droit naturel? Et comment nos législations civiles tiennent-elles compte des droits naturels à l'objection de conscience et à la résistance? Alors d'abord, le législateur et les lois contraires à la loi naturelle. Édicter des lois contraires à la loi naturelle, c'est pour le législateur s'arroger la prérogative d'être à lui-même le critère ultime du juste. Alors la théologie morale se souvient du discernement de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Donc vous pouvez trouver cela dans beaucoup d'endroits, voilà, en particulier dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors saint Augustin dit « Si la loi n'est pas juste, elle n'est même pas une loi. » Et saint Thomas d'Aquin « Dans la mesure où la loi humaine s'écarte de la raison, elle est déclarée loi inique et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. » Et il dit un peu plus loin, « Ce n'est plus alors une loi, mais une corruption de la loi. » Alors moi, j'aime bien, comme Père Bernard, prendre le sens des mots. Alors que veut dire cet adjectif « inique », une loi inique? Alors ça vient du latin « iniquitas iniquitatis », c'est-à-dire gravement contraire à l'équité, d'une injustice excessive, et ça correspond en grec au terme anomia, qui désigne une désintégration des normes, une violation de la loi, en clair, un acte extrêmement immoral. Et pour nous, chrétiens, ce terme nous est familier. Inique, on l'a entendu tout à l'heure. Vous voyez, il est employé par saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, donc chapitre 2, versets 9 et 10, au sujet du mysterium iniquitatis, le mystère de l'iniquité, qui s'oppose au mystère de la piété. Vous voyez? Alors, pour faire court, pour résumer, le mystère de la piété, c'est Jésus lui-même et sa grâce en nous. Vous voyez? Et le mystère de l'iniquité, le mystère de celui qui désintègre tout, hein, c'est celui qui se met en travers de l'œuvre du Christ à travers ceux qui n'accueillent pas l'amour de la vérité. Et nous savons qui il est. Vous voyez? On sait qui il est. Alors maintenant, l'objection de conscience. On va d'abord la voir en tant que devoir et ensuite en tant que droit. Puis on verra son corollaire, le droit à la résistance. Alors l'objection de conscience en tant que devoir. Lorsque nous sommes confrontés à une loi inique, gravement contraire aux exigences internes de la raison, notre conscience nous commande « Tu ne dois pas faire ce mal ». C'est un impératif qui est relié directement à l'obéissance à Dieu. Car la conscience bien formée est un peu comme la voix de Dieu dans notre cœur. Alors Jean-Paul II exhorte, en disant dans l'Évangile de la vie, « Il n'y a que l'obéissance à Dieu pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. » Alors parfois, dans des cas un peu extrêmes, c'est l'inverse. Parfois, l'obéissance héroïque à la conscience entraîne l'acte de foi. Alors là, nous avons l'exemple extraordinaire de Christophe Probst, donc un jeune guillotiné à Munich le 23 février 1943. C'était un étudiant en médecine de 23 ans et dont l'épouse attendait le troisième enfant. Et ce jeune est le benjamin des membres de la Rose Blanche de Munich, que vous connaissez peut-être. Voilà, alors faut se renseigner, c'est très intéressant. Donc c'est un célèbre groupe d'étudiants qui a opposé à l'horreur nazie la seule force de la raison et de la conscience. Il y avait des étudiants en médecine, en philosophie. Bon. Alors dans la nuit qui a précédé sa mort, Christophe a reçu le baptême et il écrit à sa maman, donc qui était agnostique, « Je te remercie de m'avoir donné la vie. » Première chose. Puis il revient sur l'acte de foi qu'il vient de poser en faisant le baptême.